l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mercredi 27 avril 2022 s'est tenue la cérémonie de recueillement de Yom HaShoah en la synagogue de la paix de Strasbourg à la mémoire des 6 millions de juifs assassinés par les nazis. Écoutons Daniel Elbaz au violon. Après une intervention des éclaireurs israélites de France et du Bnei Akiva, dont voici un extrait du poème de Marianne Cohn, « Je ne trahirai demain », écrit en 1943. Il est suivi d'un témoignage.
Alors, je vais vous lire un poème intitulé « Je ne trahirai demain », écrit par Marianne Cohn en 1943. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. » Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes 5 mètres durs avec des bagues, vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain, il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie.
Les témoignages sont pour nous la manière la plus directe et la plus authentique de transmettre l'histoire. Mais imaginez-moi, une adolescente de 16 ans, montée aujourd'hui pour tenter d'interpréter un témoignage qui n'est pas le mien, m'a paru déplacée. Comment pourrais-je prétendre incarner un récit si éloigné de ma réalité? Est-ce qu'un enfant comme moi aujourd'hui est légitime de parler de déportation et de camps de concentration comme s'il y était? C'est cet héritage qui permet à la jeunesse juive aujourd'hui d'incarner son passé et de se construire.
Le chant des partisans du ghetto par Daniel Elbaz. Un extrait du témoignage de Simone Polak, rescapée du camp d'Auschwitz.
En ce mois de mai 1944, plus de 3000 personnes sont parties, 2400 pour Auschwitz et 878 pour l'Estonie et la Lituanie. Ces hommes étaient partis pour aller travailler en Allemagne. Malheureusement, ils ont été obligés de travailler dans les mines et dans les forêts. Dans notre wagon, nous avions un bébé de 18 mois. Nous avions deux enfants de 10 et 11 ans et deux personnes âgées de plus de 70 ans. Ces personnes, comme toutes les autres, auraient pu vivre encore longtemps, longtemps encore. Malheureusement, elles ont abouti à Auschwitz-Birkenau, lieu où des millions d'entre nous ont été exterminés. Là-bas, quand je parle de là-bas, c'est d'Auschwitz-Birkenau. C'était ce qu'on ne peut s'imaginer. Il faut encore aujourd'hui, pour moi, je dois mettre de côté, enfouir ce passé pour pouvoir vivre convenablement. Si je ne l'avais pas fait, je pense que je n'aurais pas pu réussir ma résilience. Il faut et il fallait laisser de côté tout cela. Oublier jamais. Pardonner encore moins. Aimer son prochain. Aimer les autres. Aimer la nature. Aimer la musique. Aimer la vie. Parce que si vous n'aimiez pas tout ça, il n'était pas possible de reprendre pied après ce séjour là-bas, dans le camp de concentration, où il n'était pas question pour nous de revenir. Nous étions programmés pour disparaître, mourir, et dans quelles conditions. Merci pour votre attention.
Le rabbin Gad Sebag, de retour d'Auschwitz, où il s'est rendu avec une centaine d'enfants.
Au lieu de demander pourquoi, nous nous sommes demandés pourquoi, en vue de quoi. Que devions-nous devenir pour donner du sens à ce voyage qui n'était plus un voyage de la Pologne, ni un voyage de la mémoire, mais un voyage dans les tréfonds de nos âmes. Puis quand on croyait que la visite des camps d'Auschwitz était passée, et avec cette visite, le pire était derrière nous, nous sommes arrivés dans la terrible forêt de Sliwodzka Gora. Le guide nous y a fait la description insoutenable des atrocités perpétrées contre 8000 enfants. Nous restons un long moment à pleurer et prier autour de cette fosse. Et là, une question s'est posée à nous. À quoi serviraient nos larmes pour ces milliers d'enfants? Que pouvons-nous faire pour eux aujourd'hui? Cette forêt vraiment particulière. Pas de campement, pas de chambre à gaz, ni four crématoire. Rien ne laisse imaginer que dans cette magnifique forêt, l'horreur s'était aussi passée. Des familles entières ont été exécutées avec leurs bébés. Alors naturellement, on s'est mis à regarder les arbres, à les toucher. Ces arbres de vie ont tout vu. Comment sont-ils restés immobiles face à cette monstruosité? Que pouvaient-ils bien faire? Discrètement sous la terre, leurs racines les enlacent, les serrent fort, caressent le visage d'où ils tirent leur force. Ces arbres se nourrissent de ses familles, de ses enfants. L'homme est un arbre des champs migratoires. Et l'oxygène que nous respirons dans cette forêt est en fait le même.
Began v'yanuchu al mishkavam b'sholom.